Alors, est-ce que vous êtes prêtes à continuer la lecture dans Éphésiens ? Je ne sais pas vous, mais moi, ça me plaît. Ça me plaît de vivre ensemble un peu cette progression dans la lettre aux Éphésiens, au rythme des dimanches qui se succèdent. Et j'apprécie qu'on prenne le temps de se plonger dans cette lettre et d'avancer dans sa compréhension. Alors, je vais vous challenger un petit peu ce matin. Vous vous souvenez où on en est ? On a fait 4, vous êtes d'accord ? On attaque le ? Jusque-là, vous suivez, c'est parfait. Tous les soirs, avec mes garçons, c'est le même manège. On prend du temps pour choisir un livre avant d'aller se coucher. D'ailleurs, là, c'est très stratégique, parce que selon à l'heure où vous voulez les coucher, il faut choisir l'épaisseur du livre, vous savez ? Alors, on lit l'histoire, je m'allonge un peu à côté d'eux pour éloigner les loups, vous savez, les loups de Parignargues. Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous engage à écouter le message sur les inquiétudes. Après, on fait les guillis. Hein ? Parfois, Andrew, il me demande « Utilise tes griffes, papa. » Parce qu'il veut des gratter. Et il vient le moment d'éteindre la lumière. Et là, c'est systématique. Il y a toujours une excuse. Toujours la nécessité de dire quelque chose à maman. Ils ont soudainement une envie pressante. Parfois même, ils veulent ranger le jouet qui traîne sur le sol depuis 15 jours. On a l'impression que les enfants, ils font tout pour pouvoir reculer ce moment où on éteint la lumière. En plus, une fois sur deux, au moment où je clique sur le bouton en disant « bonne nuit » pour la troisième, quatrième fois, j'avais oublié que le couloir n'était pas allumé. Et alors là, c'est le drame. « Papa, papa, la lumière dans le couloir !» C'est étonnant. Comme les enfants et parfois même les adultes, on a une appréhension de la nuit, du noir, alors que tout est absolument identique. Je vous apprends rien d'exceptionnel, mais rien ne se passe au moment où je clique sur le bouton. La même chose, tout est exactement à la même place. Mais quand on passe de la lumière à l'obscurité, il y a des angoisses qui se révèlent. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle pour nous chrétiens. C'est le processus contraire que Jésus nous propose quand on vient à lui. Et dans plusieurs passages de la Bible, la parole nous dit qu'en acceptant Jésus, on passe justement des ténèbres à la lumière. Et elle nous demande d'être les diffuseurs de cette lumière. Alors c'est justement ce thème qui est traité dans la lecture de Éphésiens 5, versets 1 à 14. Et d'ailleurs, le titre du passage que j'ai, c'est « Vivre dans la lumière ». Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Mais vous allez voir que Paul aussi utilise ce passage pour nous donner des recommandations, des avertissements au travers de ces lignes que l'on va découvrir. Alors, si vous voulez bien suivre avec moi, sortez les Bibles, les smartphones, et je vous propose de partir à la découverte de ces versets. Si on peut les afficher derrière, c'est super. Verset 1, chapitre 5. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. » Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désiré de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, par quoi démarre le passage ? Il démarre par une recommandation. Une recommandation tellement simple à lire. Mais combien elle peut avoir des répercussions dans nos vies. Cette recommandation, c'est « Soyez donc les imitateurs de Dieu ». Pour revenir aux pratiques des enfants, l'imitation, elle fait souvent partie de leur jeu, les enfants. Ils aiment jouer à papa et maman. Vous avez remarqué d'ailleurs comment ils sont très forts pour répliquer les mimiques, les façons de s'exprimer des enfants. C'est d'ailleurs souvent enrichissant de voir comment ils nous voient. Hein. Alors quand le passage il commence par « Soyez donc les imitateurs de Dieu », c'est que Paul aussi il nous exhorte à suivre l'exemple de Dieu comme des enfants imiteraient ceux des parents. Sauf que là, l'exemple à suivre, forcément, il est bien meilleur que nous parents. Hein. Vous le constatez, Paul insiste plus particulièrement sur un point majeur que doit comporter cette imitation. Il met l'accent dans ces versets sur l'amour du Christ qui l'a conduit à se sacrifier pour que nous ayons la vie éternelle. En une petite phrase, « Soyez les imitateurs de Dieu », c'est un sacré défi qui nous est lancé. Notre amour pour les autres, comme Jésus l'a fait, doit être de la même nature que celui du Christ. Un amour qui dépasse la simple affection et qui débouche sur du service allant jusqu'au sacrifice personnel. Ça donne le ton un peu de ce passage. Mais immédiatement après ces versets, Paul y bascule de façon assez brutale. J'ai vécu un peu cette brutalité parce qu'il bascule de l'amour sur trois péchés qu'il nous demande d'éviter. Ces trois péchés, dans ma Bible, c'est l'immoralité sexuelle, l'impurité sous toutes ses formes et la soif de posséder. Alors je me suis posé la question. Pourquoi Paul choisit précisément ces trois péchés? Y a-t-il un point commun entre eux? Non, c'est vrai, moi, à première lecture, ça n'a pas été évident pour moi de comprendre pourquoi l'immoralité sexuelle et la soif de posséder, toujours plus, ils sont mis côte à côte. Et pourquoi ils arrivent juste après un dossier d'exhortation à imiter Dieu, quoi. C'est un petit peu brutal. Et je pense que malgré tout, il y a un point commun. Je pense que tous ces trois péchés, ils représentent un égocentrisme aigu. Un égocentrisme qui contraste tellement avec le verset précédent. Regardons à nouveau ce qui nous est dit dans le premier verset. Il nous rappelle que Christ nous a aimés et qu'il s'est donné lui-même pour nous. C'est le summum de l'amour. C'est le sacrifice ultime pour nous et c'est ce qui est agréable à Dieu. Et au contraire, ces trois péchés, ils sont de l'autre extrême. Ils sont loin du sacrifice par amour. Et au contraire, ces dérives dont il est question, ce sont les conséquences de nos pulsions, des pulsions malsaines, des pulsions égoïstes. Alors que la sexualité dans le mariage, c'est un cadeau qui est donné par Dieu pour le couple, alors qu'elle doit refléter un acte d'amour, l'immoralité sexuelle, elle, c'est la résultante de la recherche d'un plaisir immédiat, charnel, ponctuel. De même, pour l'impureté sous toutes ses formes, elle prend sa source quand finalement on se laisse diriger par notre chair, quand on se laisse diriger par une envie soudaine et que c'est cette envie qui prend le pouvoir sur nos vies. La soif de posséder, c'est la même chose. Elle trouve ses racines dans l'égocentrisme. À moi, à moi, à moi. Vous connaissez les mouettes de Nemo, là. Hein, à moi, à moi. Il m'en faut toujours plus. Donc, c'est donc un premier contraste qui est mis en avant par Paul. Un premier contraste entre la lumière du sacrifice d'amour et les ténèbres des péchés égoïstes. Et un premier contraste qui doit amener à faire un état des lieux de nos vies au regard de cet exemple qui est donné par Christ. Dans quelle mesure suis-je un imitateur de Christ? Un imitateur offrant ma vie pour les autres? Est-ce que ma conversion, elle a entraîné une rupture avec ses péchés de façon radicale? Il est bon parfois de se poser ce genre de questions. Alors Paul ne s'arrête pas là. Et il enchaîne ensuite immédiatement en condamnant les paroles grossières, les propos stupides ou équivoques. Alors vous savez, les histoires obscènes, justement, ce type de plaisanterie, elles sont tellement courantes aujourd'hui que parfois, on arrive presque à les considérer comme normales. Et pourtant, la Bible, elle nous avertit que nos conversations ne devraient pas laisser de place un langage qui ne reflète pas le caractère de Dieu. Je nous pose cette question. Quelle valeur aura notre témoignage chrétien si de la même bouche sort parole de vérité et propos obscènes? Alors Paul, ensuite, il va enfoncer le clou encore, quand on continue la lecture. Au cas où on n'aurait toujours pas compris. Vous savez, pour ceux qui sont enseignants, on dit la pédagogie, elle passe par la répétition. C'est vrai, hein, y a beaucoup de choses qui passent comme ça. Alors Paul, il l'utilise. Et là, il va annoncer des avertissements sévères. Aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume des cieux, le royaume du Christ. Vous avez remarqué que Paul reprend donc les trois mêmes péchés qu'il a dénoncés au verset 3, mais cette fois du point de vue des personnes qui s'y adonnent, et il annonce les conséquences. Il déclare que les individus dont la vie est caractérisée par ces égarements n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ. Pourquoi ? Parce que ces péchés sont des idoles dans la vie des personnes. L'envie, la richesse, le sexe, le plaisir, c'est quand ça passe alors devant Dieu, et bien ces idoles, elles occultent absolument tout le sacrifice de Dieu pour nous. Et c'est ça qui nous coupe du royaume. Vous demanderez à Vincent de vous prêter son excellent livre de Timothée Keller, vous l'avez certainement lu aussi, hein, Les idoles du cœur. Derrière, il y a les idoles du cœur quand ce que vous adorez vous déçoit et aussi vous coupe du royaume. On a vu qu'il pouvait y avoir le point commun de l'égocentrisme dans les trois péchés qui sont cités, de la pulsion, mais j'y vois aussi autre chose qui me fait dire que Paul n'a pas choisi ces trois attitudes pécheresses par hasard. Est-ce que vous avez remarqué que ces attitudes pécheresses, elles couvrent tous les aspects de nos vies, à la fois les pensées, les paroles et les actes? Regardons-le de plus près. Les pensées, c'est la soif de posséder. La soif de posséder, ce n'est pas forcément quelque chose de visible par les autres, c'est très personnel. Ça se passe au fond de nous, ça ne fait pas forcément de mal aux autres. Mais cette soif, elle touche notre être profond. Nos pensées profondes, elle prend la place de tout. Elle prend la place de l'amour pour l'autre. Elle nous empêche d'imiter Dieu et de se retourner vers le prochain. Trop occupé à penser à la prochaine chose que je pourrais acquérir. Les paroles, eh bien, c'est l'exemple de la vulgarité, des plaisanteries de mauvais goût et les sujets de conversation inappropriés dont Paul nous parle. Cette vulgarité aussi nous empêche d'être l'imitateur de Dieu dans ce que l'on dit. Les actes, il s'agit des pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et notamment l'immoralité sexuelle qui est citée par Paul. Difficile, là encore, d'être un imitateur de Dieu qui est allé au bout de ses actes et qui s'est sacrifié à la croix. Si moi-même, je suis à l'origine de ces actes de péché. Alors heureusement, Paul, il ne se contente pas de décrier des attitudes inappropriées, mais il nous fournit aussi un antidote. Est-ce que vous le voyez, cet antidote, dans le passage ? Il tient une toute petite phrase. Il nous encourage à exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Une petite phrase. C'est étonnant comme antidote, mais finalement, si on y réfléchit un peu, quand j'exprime la gratitude envers tout ce que le Père a fait pour moi, eh bien, mes pensées, elles changent. Je ne regarde plus à moi, à mes envies cachées, mais je regarde au Père, je regarde au sacrifice d'amour. Ça me donne envie de changer concrètement. Quand je le remercie, mes paroles sont transformées et ma bouche fait du bien autour de moi. Quand je le remercie dans mes prières pour ce qu'il a fait, à mon tour, je veux agir par des actes concrets. Alors pensons à cet antidote, la reconnaissance. Pensant aux paroles de reconnaissance, non pas comme des phrases magiques, hein, ça n'a rien de magique, mais plutôt par une attitude de remerciement qui sera le meilleur allié pour ne pas tomber. Continuons la lecture, verset 6. Là aussi, c'est étonnant, on pourrait croire que Paul change un peu de direction. Et nous dit que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe, par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Alors ce verset m'a immédiatement posé une première question. Est-ce que Paul nous interdit tout contact avec les non-croyants dans ces versets? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? C'est vrai, les inconvertis ne connaissent pas Jésus. Et ils sont forcément donc toujours dans les ténèbres. Donc est-ce que, en lisant ces versets, il faut que je considère qu'il faut couper le contact avec eux? Qu'en pensez-vous? Ça se tient pourtant, mais ça serait étonnant. Parce que Jésus a enseigné à ses disciples d'aller vers le monde. Il s'est montré amicaux envers les pécheurs, même les pires. Ceux qui étaient rejetés, il allait les voir. Jésus rappelle dans Luc 5 que ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à changer d'attitude. Alors, si Jésus, que l'on doit imiter, a agi comme ça, ben, il est clair qu'il ne nous est pas demandé de nous couper des non-croyants, d'éviter tout contact. Ben, sinon, il faudrait qu'on s'extrait de la société et on vit là tous ensemble entre nous. Remarque, le parking du centre est grand, mais quand même, ça ne serait pas sympa. Ce n'est pas ce qu'il nous est demandé. Je crois bien, au contraire, que nous sommes bien appelés à lier des amitiés avec les non-chrétiens pour éviter le syndrome du bocal dont il était parlé tout à l'heure, dans l'espoir de les amener à Christ. Alors, il semble plutôt évident que dans ce verset, les hommes rebelles dont il est question ne sont pas tous les non-chrétiens, mais peut-être seulement une partie d'entre eux qui sont là pour nous tromper. Alors moi, je ne connais pas le contexte d'Éphésiens. Peut-être que Paul visait des personnes dans l'Église, en particulier à Éphèse, ou des personnes qui gravitaient autour de l'Église. On ne sait pas vraiment. Mais vu le contexte et les versets précédents, n'oubliez jamais de lire ce qui est juste au-dessus, on pourrait imaginer que les paroles trompeuses qui ont été dites, qui sont sans fondement, eh ben, elles sont liées aux péchés qui viennent d'être énoncés. Peut-être que la tromperie consistait à dire que les péchés n'étaient pas si graves que ça. Et ça pouvait mettre le trouble dans la conduite à tenir dans l'Église. Alors mon réflexe, il a été de dire, bon David, je crois qu'on n'est pas concerné ici, à l'Église. Moi, je n'ai pas dans mon entourage des personnes qui m'agressent, des personnes qui me donnent des discours sans fondement, qui essayent de m'embrouiller, de me tromper, encore moins dans l'Église. Je n'ai pas l'impression que ça me concerne. Et puis après, j'ai fait un peu marche arrière. Est-ce que ce verset de Paul n'est pas, pour aujourd'hui, une alerte sur l'influence dégradante de la société? Peut-être pas une personne en particulier, peut-être pas une partie, mais en tout cas, j'en vois pas par ici. Mais des idées en vogue dans le monde, des tendances en vogue dans le monde, à la mode, qui peuvent parfois s'immiscer dans l'Église. Ce qui est accepté par le monde devient parfois acceptable par l'Église, à cause de discours trompeurs que l'on entend sans cesse. Vous savez, le monde, il est subtil. Hein. Le monde, il est persuasif, des fois. Il exerce une pression sur nous. La publicité que l'on entend, que l'on voit, elle nous fait face constamment à la recherche du plaisir, constamment à la recherche des biens, constamment à la recherche du prestige. Vous savez, la publicité, elle entretient la soif de posséder, péché qui nous est dit juste au-dessus. La psychologie populaire, elle encourage à rechercher l'épanouissement de soi, le bonheur personnel, peu importe les moyens pour l'obtenir. Écoute tes pulsions, tes envies, d'abord toi, peu importe les autres. Moi, c'est des messages que j'entends tout le temps. Les magazines, les films, les programmes télévisés, ils peuvent attiser notre convoitise. Et ils font leur chemin jusque dans nos pensées. Vous savez, au fil du temps, le monde il a tendance à user notre résistance au péché. Des valeurs et des pratiques qui était autrefois reconnue comme pécheresse, pourrait petit à petit nous paraître acceptable. Uniquement parce que mon voisin, qui est tout à fait gentil et sympa, eh bien, il a adopté ses valeurs. Finalement, l'alerte de Paul, elle est tout aussi valable aujourd'hui. Soyons vigilants face aux tentations, soyons vigilants face aux dérives, aux mensonges de ce monde. Méfions-nous de ceux qui prennent plaisir au mal, de ceux qui s'opposent à tout ce que le christianisme représente. Avec de telles choses, avec de telles personnes, il est à craindre que ce soit elles qui déteignent sur nous, plutôt que le contraire. Et comme le dit le verset, il convient, dans ce cas, de ne pas avoir part avec eux et de couper court. Avez-vous remarqué que les péchés auxquels Paul fait référence dans ce chapitre, ils se font généralement en cachette ? L'impureté, l'immoralité sexuelle, la soif de posséder. Et ce type de comportement est si honteux des fois qu'on n'ose même pas en parler. Mais la lumière démasque, la lumière transforme, et justement, dans les versets qui suivent, nous sommes appelés à vivre comme des enfants de lumière et à éclairer le monde. Alors après tous ces avertissements, la bonne nouvelle, elle arrive enfin. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. Vous savez, je dois vous partager un petit quelque chose. En préparant ce message, j'avais à lutter moi-même contre une idée qui me revenait régulièrement. David, vraiment, considères-tu que tu es toujours lumière ? En enseignant ce passage, comment tu te positionnes vis-à-vis de ça ? David, est-ce que ton attitude au quotidien, elle est toujours le reflet de Christ ? Et cette rengaine, elle revenait. Pas mal de fois, c'était un peu déstabilisant. Alors j'avais besoin d'aborder aussi cet aspect avec vous. Et peut-être que vous aussi, vous ressentez parfois un décalage entre certaines de vos pensées, de vos actes, de vos paroles, et la déclaration « Autrefois vous étiez ténèbres, la vérité elle est, aujourd'hui vous êtes lumière ». Et je me dis que c'est peut-être encore plus vrai pour des enfants de chrétiens. Les enfants de chrétiens, ils ont grandi avec des valeurs chrétiennes fortes, ça a été mon cas. Elles m'ont protégé, j'ai été éduqué dans l'amour qui m'a permis de m'épanouir. Mais c'est vrai qu'après la conversion, dont je me souviens très bien, la puissance de transformation par la grâce, elle n'est peut-être pas aussi visible, peut-être pas aussi percutante que ce que l'on peut entendre dans la bouche de personnes qui menaient une vie chaotique avant de rencontrer le Seigneur. Du coup, ça peut provoquer des questionnements, ça. Quand on passe du passage des lumières aux ténèbres, des fois c'est visible dans la vie de certains gens, de certaines personnes. Et est-ce que dans la vie d'enfants de chrétiens, est-ce que ce changement est tout aussi radical ? Parfois même, ça entraîne un peu de culpabilité. On ne se sent peut-être pas digne d'être appelé enfant de lumière à cause de certaines pensées que l'on peut avoir de temps en temps. Alors je vais toutefois vous raconter un petit témoignage. Peut-être que le Seigneur a été bon envers moi. Et pour me préparer à partager là-dessus, il m'a envoyé un clin d'œil. Et je voulais vous partager ce clin d'œil. Dans le cadre de mon métier de management à la banque m'a inscrit à une formation. Et la formation, elle s'appelait, j'y suis allé quoi, il y a une dizaine de jours, développer sa posture de leader. C'est très à la mode, ce genre de choses. Alors, avant d'assister au séminaire, qui était sur 2 jours, on nous a demandé de réaliser une batterie de tests de malades. Je devais répondre, je pense qu'il y avait 400 questions, 500 questions, et il fallait que je réponde le plus rapidement possible pour que ce soit le plus naturel possible. Il y avait des affirmations qui m'étaient données, il fallait que je dise si j'étais d'accord, de 1 à 10 sur ces affirmations. Il fallait que ça soit très très vite fait. Et en fait, l'idée, c'était de dire... Vous allez répondre le plus naturellement à ces choses-là. Et dans une semaine, vous recevrez les résultats avant votre séminaire. Et il y aura un coach personnel qui les analysera avec vous. Alors, j'ai attendu ma semaine, j'ai fait mon exercice. Et je commence à lire mon résumé. Il y a un logiciel qui étudie toutes les réponses. Et c'était vraiment bluffant. J'étais en train de lire le résumé. Je dis, mais c'est exactement comme ça que je travaille. C'est exactement comme ça que j'aime travailler. C'était pour nous aider à être plus efficaces. Hein. Et puis, je me suis arrêté sur quelque chose. Il y avait une slide qui était « Quel est votre système de valeurs ?» En fait, le logiciel, il a analysé, on nous a dit, 180 valeurs. Il y avait de tout dans ces valeurs possibles. C'est ce qui nous motive, il y a de tout. Il y a la valeur travail, là vers leur performance, la valeur humour, la patience, l'autonomie, la valeur citoyenne dans le boulot, l'accomplissement de soi, la valeur pouvoir, la créativité, il y avait de tout. 180. Et j'ai été frappé par les 5 valeurs qui sont ressorties sur mon profil, sur la base de mes réponses, et chacune était notée sur 20. Alors, je me suis dit, il faut que je vous les affiche. Je crois que je les ai quelque part. C'est pas pour me la péter, mais ça m'a fait du bien. 20 sur 20, le pardon. Le pardon. Alors, je vous lis ce qui a marqué. Vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Vous donnez toujours une seconde chance. Votre principe directeur est le pardon et non la vengeance. J'ai rien fait d'extraordinaire. C'est normal. J'avais envie de lui dire en débrief, mais moi, le pardon, je le vis tous les jours. Tous les jours. Je ne suis pas au niveau et mon Seigneur, il me pardonne encore et encore. Alors comment je ne peux pas le faire pour les autres ? C'est pas tout. Je me demande comment, après avoir répondu à des centaines de questions, il est remonté la valeur fondamentale qui est juste derrière. C'était les cinq grosses. La spiritualité et la foi. Tu peux, spiritualité religieuse et foi. Il m'est indiqué, vous avez des croyances fortes et cohérentes en ce qui concerne la raison d'être de l'univers et la puissance supérieure qui le régit. Vous connaissez votre place au sein du plus grand dessein. Là, il est bon ce logiciel, hein, l'IA et tout là. Waouh ! Alors, j'étais aussi ravi de voir la maîtrise de soi juste derrière. Alors, je ne pouvais pas leur dire que c'était un fruit de l'esprit, hein, mais ça m'a fait du bien. Tout ça pour vous dire que malgré toutes mes imperfections, malgré mes jours sans, eh bien, le Seigneur, il fait du boulot en moi. Il me transforme jour après jour. Il transparaît, je l'espère en tout cas, dans ce que je suis, parfois même sans m'en rendre compte. Ça m'a fait du bien pour préparer dimanche matin. De savoir que je reflétais le caractère de Jésus et que c'était aussi une valeur fondamentale pour moi. Alors vous aussi, vous n'aurez pas besoin de ce test pour ça, hein ? Pour savoir que le Seigneur vous transforme et qu'il fait un travail intérieur en vous et qu'il impacte vos personnalités. Des fois, il faut qu'on nous le balance à la figure. Pour qu'on le voit, c'est ce qui s'est passé avec moi. Dieu nous a offert son salut par Christ, qui nous a acquis. Mais c'est vrai que sur le plan psychique, sur le plan physique, ben on attend encore la pleine rédemption. Hein. En attendant le jour de la libération, nos attitudes, nos souvenirs, nos habitudes d'autrefois, de temps en temps, elles peuvent refaire surface à tout instant et lutter contre la vie de Christ en nous. C'est une guerre qui oppose l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui demeure dans notre esprit, qui s'oppose à la chair. Paul lui-même est confronté à ce combat. Dans Romains 7, il nous est dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et heureusement, à la fin, j'ai mis des petits tirets, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'existe pas deux personnes qui ont exactement les mêmes combinaisons des tendances charnelles. Certains, ils ont à lutter contre la colère, d'autres contre l'envie, d'autres ont plus de mal à pardonner ou à résister à la convoitise. La guerre contre la chair, au même titre que celle contre le monde, elle va se poursuivre pendant qu'on est ici-bas. Alors un précieux conseil est donné dans ce passage. S'il y a des luttes internes, des faiblesses internes, des péchés dont on n'arrive pas à se débarrasser, des secrets enfouis qui n'ont jamais été avoués, le Seigneur nous demande de les mettre à la lumière. Les mettre à la lumière, c'est les confesser. Les mettre à la lumière, c'est les partager avec un ami en qui on a confiance, avec un pasteur. Les mettre à la lumière, c'est demander la prière à votre groupe de maison. Rien n'est plus dévastateur qu'un péché qui est enfoui, que l'on cache, il fait des dégâts au plus profond de notre être. Et en plus, vous savez quoi, ça ne sert à rien, on ne peut pas le cacher au Seigneur. Il y a donc un combat à mener. Je terminerai là-dessus. Mais il ne faut pas se tromper dans le combat. Le passage à l'état d'enfant de Dieu, l'état d'enfant de lumière, ce n'est pas Star Wars. Luke Skywalker, pour ceux qui connaissent, il cherche à devenir un Jedi. Alors, il est livré à deux influences. Celle du côté obscur de la force, avec Dark Vador, et celle du côté clair de la force, il y a Yoda dedans. Et il lutte tout le temps. Il progresse dans un parcours initiatique et à force de ses bons choix, à force d'épreuves passées avec succès, à force de tous les éléments qu'il met, eh bien, il devient enfin un Jedi. Et il est le représentant du coup du bon côté de la force. La qualité de Jedi, elle s'obtient après que Luke il ait réglé ses problèmes, qu'il ait démontré sa faculté à faire les bons choix. Pour nous, à notre conversion, un changement d'identité est immédiat. Et c'est produit. En vertu de l'union avec Christ, Dieu nous a transférés immédiatement du règne des ténèbres à celui de la lumière, comme il l'a fait pour le brigand sur la croix, qui n'a pas eu beaucoup de temps d'ailleurs pour se racheter, mais il a transféré. C'est un fait. En acceptant Jésus, nous sommes passés à la lumière. Dans Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés du royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés pour nos péchés. N'oublions pas le terme que nous employons à la conversion. Qu'est-ce qu'on dit quand on se convertit ? Nous sommes adoptés. Nous avons été adoptés, acceptés par le Seigneur. Quand on est adopté, on devient enfant immédiatement. On n'a pas passé des tests, des épreuves pour le devenir. Quand le fils prodigue, il revient dans la maison du père. Il revient à la vie quand le père le prend dans ses bras. Il était mort et il revient à la vie. Le père, il n'a pas attendu une semaine ou quelques semaines pour voir si le jeune il assurait et qu'il avait tourné le dos. Il a prononcé ses paroles dès qu'il le voit, par amour. Alors mes amis, c'est ça qu'il faut retenir. L'épreuve à la croix a déjà été passée par Jésus. Et c'est ce qui nous permet d'être accueillis, ça nous permet de vivre cet état de fait. Je suis devenu fils de la lumière par grâce. Et oui, aujourd'hui, je peux dire, les chrétiens sont eux-mêmes lumière. Il s'agit de la lumière réfléchie. Car la véritable source de la lumière, vous le savez, hein, c'est nul autre que Christ. Et c'est là, c'est à partir de là, que la marche avec Jésus commence. J'ai bien dit la marche, la démarche de sanctification qui va nous occuper sur toute la terre, pour toujours, cette envie, cette marche de ressembler davantage à notre Seigneur. Il y a ce chant, je l'avais pris en photo la semaine dernière aussi, qu'on avait pris, je traverse le feu, qui dit « Quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, voilà la marche. » Ça définit bien cette idée de transformation et de croissance. C'est un mécanisme de croissance qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur, et pas le contraire. Ce que je suis en Jésus-Christ ne dépend pas de ce que je fais, mais de ce qu'il a accompli et qui continue à accomplir dans ma vie. Et parce que je suis conscient du sacrifice de Jésus pour moi, eh bien je veux, à mon tour, être digne du Fils de lumière que j'ai été et que je suis devenu. Alors je veux terminer par un verset, en vous laissant le verset que tout le monde connaît du Sermon sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde, le sel avant, bien entendu. Moi, la lumière, ça m'intéresse aujourd'hui. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton pardon. Continue, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes chacun, et tu as déjà payé le prix, Seigneur, et aujourd'hui, je peux proclamer que je suis cet enfant de lumière, Seigneur. Aide-moi dans ma démarche, Seigneur, et aide-moi quand je faiblis, Seigneur. Amen.